sur Radio Bus, vous écoutez la radio la plus rapide. Radio Gymnase de Nyon, 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 Nyon.
Bonsoir auditeurs et auditrices, nous sommes ici sur Radio Gymnase de Nyon.
Merci de nous écouter. Alors moi c'est Sienna et je suis là avec Elisa, Lara, Nouria et Milena.
Ensemble on va vous présenter la suite du feuilleton et quatre chroniques sur plusieurs sujets différents.
Pour commencer, on terminera le feuilleton sur le tirage au sort. Donc on espère que vous avez écouté les émissions des autres groupes.
Et ensuite une chronique sur le Moyen-Âge, temps présent, où on va s'intéresser aux femmes de la bière. Spoiler alerte, la bière n'a pas toujours été une boisson d'homme.
Après, on reviendra dans des temps un peu plus modernes avec un journal de 1900, si jamais vous étiez curieux de ce qui se passait aux alentours de Nyon à cette époque.
Et dans la prochaine chronique sur la mondialisation, on essayera de vous expliquer le lien entre le chewing-gum, le bétel et les pneus.
Et on arrivera rapidement sur la dernière chronique où on parlera de l'origine des préjugés sur les banlieusards.
Avant de commencer l'émission, quelques précisions sur le feuilleton. Comme vous l'avez sûrement entendu dans les autres émissions, ce feuilleton parle du tirage au sort dans différents systèmes politiques à différentes époques.
Les autres groupes ont parlé du rôle du tirage au sort dans la démocratie athénienne et les républiques italiennes. Les comparaisons sont très intéressantes car on voit qu'une même pratique peut être utilisée pour des buts complètement différents.
Oui, on vous recommande d'aller écouter les émissions de nos camarades. Elles sont superbes. Bon, perdons pas plus de temps et passons au tirage au sort!
Alors, aujourd'hui, on va conclure en beauté le feuilleton sur le tirage au sort, mais cette fois-ci, on va rester en Suisse.
Exact, on va continuer sur la lancée de nos camarades qui ont déjà fait deux autres feuilletons. Ils ont d'abord discuté des enjeux du tirage au sort à l'époque de la démocratie athénienne.
Yes, j'ai même trouvé ça assez bluffant de voir un système politique fondé exclusivement autour du tirage au sort.
Ah oui, je suis bien d'accord. Et le deuxième avec le tirage au sort, cette fois sur les républiques italiennes, était aussi super.
C'est vrai que c'est dingue de voir ces différentes factions constamment en concurrence pour le pouvoir. Et c'est à cause de ça qu'ils ont introduit le tirage au sort, pour trouver un terrain d'entente.
Et nous, on parlera du rôle du tirage au sort dans la politique suisse, et plus spécifiquement de toute cette histoire de spectacle autour de l'argent. C'est une dinguerie, on se croirait presque à Vialat.
Oui, alors rentrons enfin dans le vif du sujet. Le tirage au sort au XVIIe et XVIIIe siècle, dans certains cantons suisses, ça donnait quoi?
Alors tout d'abord, les cantons qui l'ont utilisé étaient ceux de Glaris et de Schwyz.
Et en plus, à Glaris, le tirage au sort était absolu et tout le monde pouvait être choisi. Alors qu'à Schwyz, c'était comme les républiques italiennes. Il y avait deux étapes, un tirage au sort puis élection.
Ah ok, mais le tirage au sort, il servait à quoi en fait? Est-ce qu'il est considéré à lui tout seul comme démocratique? Parce que ce n'est plus trop le peuple qui a le pouvoir de décision là. Pourtant, le premier feuilleton parle bien de la démocratie athénienne, donc ça l'était à un moment ou quoi?
En fait, ça dépend de beaucoup de choses. Du contexte dans lequel le tirage au sort est utilisé, par qui et surtout à quelle fin.
Exact. C'est pour ça qu'à Athènes, environ 500 ans avant Jésus-Christ, le but était que tous les citoyens aient accès au pouvoir. Il n'y avait pas une pratique plus démocratique que celle-ci pour l'époque athénienne, car tout le monde avait de chances égales. En revanche, en Suisse de nos jours, le peuple participe à la vie politique en choisissant leurs représentants et peut lancer des initiatives et référendums. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça ne servait à rien.
D'accus, mais pourquoi ces deux cantons suisses ont-ils intégré le tirage au sort dans leur système?
Ils voulaient résoudre quelques problèmes, comme la répartition régionale, ou notamment les problèmes liés à l'argent.
Oui, à ce moment-là, les cantons avaient des grands problèmes de corruption dans la politique, car les riches achetaient des votes pour être élus.
Quand ils ont instauré le tirage au sort, leur but c'était justement d'éviter que les riches aient une trop grande importance dans le domaine, et qu'ils aient une sorte de répartition de l'argent, en déterminant les postes par le hasard. Comme ça, il n'y avait aucun moyen de tricher par la corruption.
Et ce tirage au sort était fait parmi tout le peuple, donc n'importe qui pouvait être choisi pour exercer n'importe quelle charge politique.
Non, pas tout à fait. Le landamman, par exemple, n'était pas tiré au sort, car pour certains rôles plus importants, il fallait avoir un minimum de connaissances.
C'est vrai, mais pour revenir sur la corruption, logiquement on pense que ça s'arrête là. Mais en fait, comme la fraude n'a pas été arrêtée avec ce nouveau système, ils ont décidé d'au lieu de continuer à lutter contre la corruption, il fallait la rendre en quelque sorte légale.
Ah, la venalité des charges! Ils devaient payer quoi déjà?
Il fallait payer une somme pour acheter les charges que le hasard leur avait distribuées. Mais le problème c'était que les gens tirés au sort, pouvaient-ils tous payer la charge?
Eh ben non, c'est ça le souci. Un paysan ou un autre métier moins bien payé ne pouvait pas se le permettre. Par exemple, dans cet ouvrage, nous avons un exemple d'un paysan qui a été élu pour exercer la fonction de bailli de Werdenberg. Mais on nous dit, il lui faut débourser environ 5500 florins pour y accéder, ce qui équivaut à 25 000 jours de travail. C'est énorme! Donc évidemment, il ne pouvait pas l'acheter. Donc devinez qui l'achète à sa place?
Bah, qui d'autre qu'un riche? Donc finalement, il y avait toujours la même classe sociale au pouvoir, vu que c'était les seuls qui pouvaient se permettre d'exercer une fonction politique.
T'as tout compris. Et le pire, c'est qu'avec tous ces achats, ça faisait un énorme trafic d'argent, mais légal. Donc les riches sont restés au pouvoir, mais au moins les pauvres bénéficiaient de l'achat de leurs charges. De l'argent est passé dans les mains des pauvres, les riches l'ont repris, les citoyens ont gagné et l'État n'a rien perdu, car tout se passait personnellement entre les pauvres et les riches.
Et c'est justement là le génie de ce système. Si un paysan était tiré au sort, c'était le jackpot.
Donc cela permettrait la redistribution de l'argent, donc tout le monde était content. Mais du coup, même avec cette corruption, on va dire légale, ce n'est pas tellement démocratique.
Pas du tout même. Avec notre vision de la démocratie où tous sont égaux, ce n'était pas très démocratique. Mais de cette manière, les riches restaient au pouvoir et le peuple n'avait pas de raison de se plaindre.
Et en plus, il y avait moins de pertes d'argent pour les riches, car ils dépensaient plus leur argent pour acheter des votes. Et c'est comme ça qu'ils n'ont pas perdu le pouvoir sur la politique. Ils ont juste changé le système de sorte à éviter la corruption illégale et que tout le monde soit gagnant. C'est du génie!
Ouais, mais je trouve ça quand même particulier que l'argent soit utilisé ainsi et que ce soit parfaitement en règle. Et même montré comme un show, quoi.
On est de retour à Las Vegas avec ce spectacle d'argent.
Et comme on dit, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Parce qu'après quelques années, le tirage au sort était interdit et on en parlera plus jamais.
Jusqu'à maintenant en tout cas.
Oui, nous sommes en train de réutiliser de plus en plus dans le monde. Mais surtout pour des questions environnementales.
Ah ouais, pourquoi ?
Bah, par exemple, pour un thème qui concerne tout le monde, comme l'écologie. On voudrait des représentations différentes et pas que des professionnels de la politique.
Mais attends, donc un Lacostène pourrait être tiré au sort pour aller à la fameuse conférence de Davos avec des politiques tels que Joe Biden ou des activistes comme Greta Thunberg.
Ouais. Oui, et on se pose alors la question des compétences. Mais en tout cas, au XVIIe et XVIIIe siècle, dans certains cantons, ils avaient une sorte d'écrémage, une présélection pour les personnes tirées au sort pour que les personnes tirées au sort plus tard soient compétentes.
Et même que le conseil pouvait révoquer quelqu'un s'il l'estimait inapte à la position.
Oui, des mesures ont été prises de ce côté-là, pour pas que ce soit n'importe quoi quand même.
Peut-être, mais on remarque que chaque système politique a ses limites. Parce que c'est vrai que le tirage au sort a paru la solution à la corruption, mais bon, comme on vient de le discuter, il n'est pas parfait. Et il y a beaucoup de choses à prendre en compte et qui peuvent varier dans son utilisation.
Ouais, par exemple, s'il y a une loi permettant aux gens de racheter les charges déterminées au hasard, c'est complètement contraire au but d'impartialité du tirage au sort.
C'est vrai, mais comme on en a discuté, ce n'était pas forcément dans ce cas le but. Donc, on peut retenir d'aujourd'hui, grâce à un proverbe indien, que...
Oh, ça y est, elle est pas dans son monde philosophique.
Mais fais pas ta rabat-joie. Écoute ça. Selon un proverbe indien, nul n'est parfait ici-bas, le soleil lui-même a ses tâches. En gros, même si un système politique peut paraître parfait, il y a des limites et des problèmes à en tenir compte. C'est pour ça que c'est un débat. Mais c'est bien ce qui est intéressant, c'est d'avoir le choix des méthodes politiques.
Merci pour ce petit proverbe, Lara. En tout cas, moi j'ai bien aimé discuter sur ce sujet avec vous, car comme on l'a dit avant, on s'attend pas vraiment à ce que le tirage au sort puisse être au sein d'un gouvernement, et que ce soit le hasard qui est laissé à prendre des décisions. Même si, comme on le voit en Suisse, il se fait quand même influencer.
Oui, j'ai aussi apprécié, et ça m'a permis de clarifier ce qu'on a vu en classe. Mais maintenant, c'est l'heure de passer à la suite avec la chronique Moyen-Âge creux... ouais.
Ah mais attends, d'abord on va écouter I Knew You Were Trouble de Taylor Swift pour faire une petite pause.
Merci à toutes, laissons place à la musique. Once upon a time, a few mistakes ago, I was in your sight, you got me alone, you found me, you found me, you found me. I guess you didn't care, and I guess I like that, and when I felt hard, you took a step back with trouble when you walked in, so shame on me now, flew me to places I've never been, till you put me down, oh, I knew you were trouble when you walked in, so shame on me now, flew me to places I've never been, now I'm lying on the cold hard ground. He'll never see you cry. Pretends he doesn't know that he's the reason why you're drowning, you're drowning, you're drowning. And I heard you moved on from whispers on the street. A new notch in your belt is all I'll ever be. And now I see, now I see, now I see. He was long gone
Merci pour ce feuilleton. Pour continuer, commençons par une question. Gymnasiens et gymnasiennes qui nous écoutent, selon vous, quelle est la boisson alcoolisée la plus populaire ?
Moi, je dirais soit le vin, soit la bière.
Ah ouais, moi aussi. En tout cas, chez les jeunes, c'est sûr, c'est la bière.
J'étais sûre que vous alliez être du même avec moi et dire la bière. Je pense aussi que vous savez que c'est aussi une boisson qui est liée à énormément de clichés sexistes.
Ah, de nos jours, la bière est toujours vue comme une boisson plutôt masculine. Hein.
Oui, c'est ça. Ça me fait penser aussi à une marque de bière qui avait fait une pub qui dénonçait ce préjugé absurde en montrant des scènes très courantes dans la vraie vie où les serveurs échangeaient les commandes et donnaient des cocktails aux hommes et de la bière aux femmes au lieu de faire l'inverse.
Ah, mais oui. Encore une preuve que ce cliché est extrêmement présent de nos jours. Mais en fait, vous savez depuis quand ça date, ce préjugé ?
Aucune idée, mais c'est sûrement un truc qui date depuis longtemps et qui n'est jamais reparti.
C'est ce que je pensais aussi, et c'est pour ça que c'est intéressant qu'on discute de l'origine des comportements sexistes présents de nos jours. Et surtout que, d'une certaine manière, le rapport à la bière s'est inversé. Avant, c'était une affaire de femmes.
C'est vrai ! J'ai lu un article sur le site Actuel Moyen Âge, qui expliquait qu'en fait, à la base, c'était les femmes qui s'occupaient de faire la bière et qui géraient le monde autour de cette boisson jusqu'au XIVe siècle.
Oui, j'ai aussi lu cet article et il disait qu'au Moyen Âge, brasser de la bière était une tâche ménagère, comme faire le pain ou entretenir le foyer.
Donc si j'ai bien compris, ça veut dire que chacun faisait sa bière chez soi, comme dans les microbrasseries de maintenant.
Oui et non. La majorité de femmes brassaient surtout pour la consommation familiale. Mais comme faire plus de quantité ne leur ajoutait pas de travail, elles vendaient une partie de leur production de temps en temps.
C'est ça, le 25% des femmes dans le sud-est de l'Angleterre vendaient leur bière 3 fois ou plus par an. Mais il y avait aussi des femmes qui vendaient leur surplus dans la foire locale et aussi des brèves businesswomen médiévales comme Maud Elias qui en 1301 a vendu 500 litres de bière à la maison du roi Édouard Ier.
Waouh !
Et elles ne se sont intéressées qu'au marché local ou elles ont réussi à créer une plus grande affaire en exportant leur production ?
Oula, attends, il faut quand même que tu gardes en tête qu'à cette époque le transport n'était pas aussi efficace qu'aujourd'hui. Hein. Et en plus la bière, c'était lourd. C'était compliqué et cher.
Ouais, pour te faire l'idée de la problématique que cause le transport à cette époque-là, on estime que tous les 100 km, le prix augmente de 25 à 70%.
What? Et du coup, c'est quand que les hommes se sont intéressés à autre chose que la consommation ?
Ah bah ça, très bonne question. Ils ont pris le devant sur le marché vers le début du XIVe siècle, car durant cette période, il y avait la peste. C'est à cause de ça que la consommation de bière augmente, alors que les hommes riches ont investi. Donc, le marché se développe, passe de la production domestique et locale à de grandes exploitations urbaines. Et en plus, à ce moment-là, le transport n'était plus un problème parce qu'on la transporte par les eaux.
Exactement. En fait, c'est à partir de ce moment que le nombre de brasseuses n'arrêtait pas de diminuer. Et finalement, les seules femmes brasseuses qui restaient, c'était les veuves qui faisaient tourner l'affaire de leur défunt mari, car les femmes indépendantes n'avaient pas vraiment les moyens de rivaliser avec les hommes riches.
En gros, les femmes ont été exclues du marché lorsqu'il a commencé à se développer et semblait intéressant économiquement. Ça ne m'étonne même pas.
T'as tout compris, mais vu que les femmes avaient dominé le métier pendant des siècles, on a dû leur interdire pour qu'elles arrêtent d'en faire.
Ah, et j'imagine c'est de là que vient l'association de la bière avec les hommes.
Exact, c'est à cause de ça. Donc pour résumer tout ça, même si au XXIe siècle, la bière est vue comme une boisson masculine, à l'origine, c'était les femmes qui s'en occupaient.
Jusqu'à ce que le commerce de cette boisson devienne intéressant et que, comme par hasard, les hommes commencent à y investir leur temps et leur argent pour ensuite aller jusqu'à interdire aux femmes d'en fabriquer. Et depuis, la bière est restée en mémoire comme une boisson alcoolisée bue par les hommes.
Et oui, passons maintenant à la musique avec la prochaine chronique. Nous avons choisi le morceau de Joe Dassin et Si tu n'existes pas pour rappeler l'importance des femmes dans le développement de la troisième boisson la plus consommée du monde.
Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour, comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour. Et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais.
Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement.
Quelle belle musique! Ça me rappelle d'ailleurs, je vous ai amené un truc que j'ai trouvé chez ma grand-maman. Vous allez voir, c'est génial.
C'est quoi?
C'est un vieux journal de Nyon des années 1900. Oh, pour être exact, c'est du mercredi 6 juin 1900.
Waouh, ça date! Il y avait déjà un vrai journal en 1900?
Mais bien sûr, t'es bête, toi!
Par contre, je sais pas ce qu'il pouvait se raconter à l'époque.
Ouais, alors moi non plus, je savais pas trop, mais tiens, vous pouvez le feuilleter, hein!
Oh cool, ça va, 4 pages, c'est pas trop long.
Ouais, mais en gros, ça parle surtout de sujets qui intéressaient le plus les habitants de l'époque, donc l'agriculture, la viticulture et le commerce.
Ah ouais, il y a beaucoup de pubs, hein.
Ouais, et t'as vu les listes de prix?
Ouais, c'est vrai que c'est assez drôle. Il y a des infos très régionales, mais ça parle aussi de l'actualité en Chine.
Mais qu'est-ce qu'ils en disaient de l'étranger?
Alors, ils en parlent assez objectivement, mais c'est vrai qu'en tout cas, dans celui-là, ils donnent des détails et des nouvelles que peut-être nous, maintenant, on trouverait pas très nécessaires.
Ouais, regarde, t'as raison, regarde, pile là où je suis, dans la partie sur l'étranger, on nous parle d'un gars qui s'est fait voler 9000 balles par des Anglais à Paris. L'histoire est assez drôle, mais je vois pas trop l'intérêt pour les Suisses.
Surtout qu'à l'époque, je pense pas qu'on allait à Paris tous les jours.
Ouais, et même les nouvelles de ce qui se passe en Suisse sont assez marrantes. Vous avez vu la nouvelle avec les vipères? C'est presque une anecdote drôle.
Mais oui, hein, c'est vrai qu'en lisant, on dirait qu'il se passe rien d'important en Suisse au niveau politique, parce que il nous parle d'accidents de montagne et des péripéties de Neuchâtelois et de ses vipères.
Ouais, en plus, ça prend 1000 fois plus de place que les nouvelles sur l'actualité qui pourraient affecter tout le monde, comme le tout petit paragraphe sur la décision du Conseil fédéral et l'assurance militaire.
Bon, tout le monde. En tout cas, l'impression que j'ai, c'est que le journal a été écrit par des hommes et pour des hommes. Hein.
En vrai, je m'attendais à pire pour l'époque. Regarde, dans Content de vous, par exemple, il y a un long paragraphe écrit par une aimable abonnée. Et franchement, moi, je la trouve hilarante. Elle raconte ce qui se passe vers chez elle, mais c'est bien écrit.
Ouais, regarde comment il commence. Puisque les hôtels sont enfin ouverts, ramenant aussi plus de vie et de gaieté dans nos solitudes alpestres, quelques gentlemen et leurs épouses, toujours les premiers à partout, sont toujours là, attirant le regard des villageois. Ça donne envie de continuer à lire.
Oui, vous avez peut-être raison, mais à part la partie qu'elle a écrite, les femmes et les jeunes ne seraient pas hyper représentées par les articles du journal. Et en plus, elle n'est même pas citée. Et l'autre fois, on parle de femmes de l'époque, on parle de ménagères, comme si ça parle de cerises.
Ouais, t'as raison, en vrai. Après, il y a aussi l'ordre. Je sais pas si c'est très réfléchi, parce que, regardez, ça a par région, oui, mais ça passe de la Chine à une chose informative de la Suisse, à cette petite histoire drôle, à l'espèce de pub des cerises.
Oui, j'ai vu. Je sais pas s'il y a eu un surplus de cerises cette année ou qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est assez random.
En parlant de ça, je pense que ce qu'on peut voir le plus, c'est que Nyon était vraiment très agricole. Il y a le bulletin agricole qui a l'air d'être là chaque semaine, et cette mercuriale des marchés de la Suisse romande, et en plus les annonces de différentes ventes.
Ouais, on voit que le commerce est encore très focalisé sur l'agriculture de la région, mais ça commence un peu à être un peu international aussi, parce que regarde, du thé Lipton est vendu dans un magasin, donc alors que c'est une marque anglaise.
Ouais, j'ai remarqué aussi. Je pensais pas que les choses se diffusaient aussi vite, parce que il me semble que ça a été fondé en 1990 en Angleterre, et là on est en 1900 et c'est déjà si populaire en Suisse.
Ah ouais, surtout, je pensais pas que ça allait aussi rapidement entre les époques, hein. À l'époque entre les pays.
Pff, ouais, et aussi, on peut revenir à l'ordre. Vous avez vu ce qu'il y a en couverture, c'est directement cette histoire des boxeurs en Chine.
Ouais, donc non seulement la Chine devait être une grande puissance mondiale, mais aussi ça intéressait les Nyonnais, plus que j'aurais imaginé.
Ouais, en plus j'ai vu, il y a un autre article sur la même chose, mais j'ai pas trop compris ce qui s'est passé.
En gros, il y a une centaine d'années, la Chine ou l'Empire Céleste était très stable et d'un coup le pays s'est affaibli.
Surtout que vu les autres articles, il se passait pas grand chose au niveau politique à Nyon, donc fallait chercher Araï, aller chercher ailleurs. La recherche de gossip quoi.
Ah ouais, mais est-ce que c'est très grave pour la Chine? Est-ce que ça nous affectait aussi?
Bah un peu quand même, parce que bah, si j'ai bien compris, l'Empire commençait à s'affaiblir pour diverses raisons et le peuple s'est révolté contre l'Empereur. Ils ont organisé une société secrète et ont attaqué les chrétiens indigènes ainsi que les missionnaires catholiques et protestants. En fait, c'était eux les boxeurs.
Ouais, et j'ai lu qu'ils sont considérés comme la pure incarnation de la réaction chinoise. La haine personnifiée et tout ce qui est étranger.
Ouais, en plus, risque de faire de l'ombre sur l'État si l'État ne se remet pas vite. Et surtout que c'est contre les étrangers. Donc regarde là, c'est marqué que les pays européens et les États-Unis étaient très inquiets pour leurs citoyens qui habitaient en Chine. Enfin, c'est normal.
Ah bah regarde ce qu'il disait là. Les autorités chinoises ne sont pas intervenues quand la haine de cette société secrète s'est dirigée contre les chrétiens indigènes pour les torturer et les massacrer. Non contents de ces méfaits, les boxers attaquaient les missionnaires catholiques et protestants, si bien que les grandes puissances durent s'occuper du sort de ces derniers.
Ah, mais ça doit être pour ça que c'était à la première page du journal et que c'était si suivi même en Europe. C'est peut-être la seule nouvelle qui pourrait se ressembler à ce qu'on trouve aujourd'hui dans un journal.
Ouais, c'est vrai. En plus, c'est assez logique parce que le type d'écriture est resté celui de l'article de couverture. Parce que c'est la première page et c'est presque ça. Hein.
Ouais, la première page, il y a ça, un feuilleton, une section sur la guerre et puis les informations les plus pratiques.
Ouais, t'as vu ? Les prix des transports ! Ça, c'est rien, 5 francs par année.
Ouais, bah regarde, pour nous faire une idée d'autres prix de l'époque, si tu regardes la mercurielle, avec 5 francs, tu peux acheter 5 kilos de porc au marché de Nyon.
Attends, ça fait 100 grammes coûte 10 centimes.
Attendez, je vais regarder combien ça coûte aujourd'hui à peu près.
Ok, vas-y. Mais attends, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui pouvaient prendre de train, et surtout, il y en a plein, je pensais pas qu'il y en avait autant. Et surtout, il y a aussi beaucoup de bateaux. Enfin, le transport public, je trouve, il est bien développé.
Oh les gars, j'ai trouvé. Sur le site de la COP, j'ai vu, et là, 100 grammes de viande hachée de porc, c'est un peu plus que 2 balles.
Alors, je savais bien que ça allait être un peu plus, mais alors là, purée.
Ouais, hein. Mais en fait, c'est fou, parce qu'il y a des trucs grave différents, et d'autres, je pensais que ça aurait pas changé, et en fait, bah, ils ont trop la même chose.
Ouais, c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je vous l'apporte. C'est assez cool, non ? De découvrir à travers un objet comment vivaient les gens dans la même région que nous, mais il y a plus de 100 ans.
Oui, c'est sûr. En plus, dans ce journal et tous ses contenus, on peut un peu plus comprendre comment vivaient les gens, et surtout, on voit l'importance de la presse dans le journal de Nyon.
Ouais, je suis d'accord, parce que juste en regardant les annonces, tu vois comment ils vivaient, et surtout, c'était leur moyen de communication pour tout.
Ouais, mais aussi le divertissement en même temps que la source d'information. Vous trouvez pas ? Parce que moi, je trouve que j'ai bien appris et j'ai bien rigolé.
Ouais, bah c'est vrai qu'il y a des choses écrites de manière un petit peu surprenante. Genre là, l'espèce de pub recommandation de la clinique privée de Glaris avec comme titre l'épilepsie. C'est assez spécial.
Attends, l'épilepsie, genre le petit warning qu'on voit sur les boîtes de jeux vidéo ?
Ouais, mais justement, c'est ça qui est bizarre. Aujourd'hui, cette maladie, bah je trouve, elle est prise au sérieux. Genre tout le monde sait ce que c'est, mais là, on dirait une pub pour un wellness center. Genre elle nous dit qu'elle est guérie, mais on dirait un peu la cure miraculeuse bizarre.
En mode, c'est trop beau pour être vrai. Mais justement, en lisant juste ce petit bout, on voit déjà que leur approche et de manière de faire lire le public était un peu plus une approche personnelle.
Ouais aussi, mais après l'épilepsie, les maladies comme ça étaient fréquentées à l'époque et la médecine n'était pas autant développée vu qu'on nous dit que chaque clinique a un peu des méthodes différentes. Donc vraiment, ce n'est qu'un exemple, mais on apprend beaucoup avec ces choses, hein.
Ouais, alors, bah, franchement, je suis contente que ça vous ait intéressé autant, les filles, mais là, faut clore cette chronique. Mais regardez, je vous laisse dans cette époque avec la célèbre chanson d'Edith Piaf, La vie en rose.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. De bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi pour lui.
l'amour à plus finir. Un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent. Heureux, heureux, sans mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie.
Merci pour cette chanson. On passe maintenant à notre chronique sur la mondialisation.
Attends, attends. Elisa, tu peux mâcher un peu moins fort, s'il te plaît ?
Ah bah oui, excuse. C'est juste que je stresse de passer à la radio et je trouve que le chewing-gum, ça me détend.
Ouais, mais tu savais que le chewing-gum servait justement à ça pendant la Première Guerre mondiale ?
Ah ouais ? Le chewing-gum, c'est aussi vieux ?
Ouais, en fait, c'est encore plus vieux que ça. Ça date du début du 19e siècle. Et hier, avec Elisa, on a lu un extrait du livre Le Petit Magasin du Monde qui parlait justement du chewing-gum.
C'est marrant, je pensais que le chewing-gum, c'était encore une cochonnerie assez récente inventée par les Américains.
Ah bah alors non, pas du tout. À l'origine, déjà, c'est pas une création américaine. Hein. À la base, c'est une résine d'épicéa mexicaine qu'on appelle le chiclé, que les Mayas mâchaient lors d'occasions particulières. C'est ensuite arrivé au nord de l'Amérique grâce à une valise du général Santa Anna, un président déchu qui est parti en exil.
Quoi ? Avec une valise ?
Ouais, c'est drôle. Hein. En fait, il avait amené une valise dans sa... quand il s'est fait chasser de son pays. Et c'est lui-même, en 1869, qui s'est mis en contact avec un inventeur, un certain Thomas Adams, je crois, pour qu'il lui fasse un caoutchouc pour faire des pneus qui seraient utiles lors des guerres.
Ah mais attends, là on parle plus du chewing-gum.
Si, parce que l'inventeur a pas réussi, du coup il a eu l'idée de transformer la gomme, enfin le pneu en une gomme facile à mâcher, sucrée et aromatisée. Un peu comme le chewing-gum qu'on connaît nous.
Oh cool, mais comment le chiclet s'est répandu ?
Ah bah écoute, comme beaucoup d'autres choses, hein, c'est grâce à la guerre. Durant la Première Guerre mondiale, les soldats américains en consommaient pour calmer leurs nerfs et garder une haleine fraîche. C'est eux qui le popularisent en Europe, surtout après durant la Seconde Guerre mondiale, car les troupes américaines en France se font expédier des chewing-gums. Les autres troupes s'intéressent à ça et le chewing-gum se popularise.
Et puis ce sont les soldats qui ont introduit la pâte à mâcher aux civils en leur faisant goûter tout simplement.
Ah, je comprends mieux. Mais attends, c'est vrai qu'on m'a déjà dit que dans le chewing-gum il y avait du caoutchouc comme dans les pneus. Mais rassure-moi, on mâche pas des pneus quand même.
Non, t'inquiète. C'est juste que la gomme de pneu contient une molécule qui s'appelle le polymère.
Ah, et cette molécule, on la retrouve dans le chewing-gum.
Ouais, sauf que le pneu a été inventé un petit peu plus tard que le chewing-gum, hein, vers 1888. Et il a bien été plus utile que cette gomme à mâcher.
Ouais, je sais. J'ai lu un truc qui disait que vers la fin du 19e siècle, grâce au premier brevet de pneus de voiture, il a eu un succès immédiat auprès des transports.
Ah oui, regarde, j'ai trouvé, je te lis, le nom de voiture et de camion passe à plusieurs dizaines de milliers avant la Première Guerre mondiale. Les gares sont de formidables accélérateurs de la production de pneus. Eh ouais, la mondialisation est rapide grâce aux vélos, camions et voitures qui ont la raison du succès du pneu.
Mais j'imagine qu'on pouvait pas trop importer de caoutchouc directement depuis les autres pays, non ?
Non, pas trop. Elisa, corrige-moi si c'est faux, mais je crois que les nazis sous l'ordre d'Hitler ont produit leur propre caoutchouc, sauf que là c'était plus trop naturel quoi. Seulement 8% de pneus étaient faits avec du caoutchouc naturel.
Bah oui, bah en fait, comme le chewing-gum en fin de compte, hein, les pneus sont maintenant faits majoritairement avec du caoutchouc synthétique. Et dans l'après-guerre, la classique pâte à mâcher était presque tout le temps synthétique, mais elle était toujours aussi rafraîchissante et facilitait beaucoup la digestion.
Attends, attends, ça me dit quelque chose, j'ai déjà entendu ça quelque part.
Ouais, moi aussi. Ah oui, attends, le bétel aussi servait à rafraîchir la laine et il était aussi apprécié pour sa relaxation.
Oula, c'est quoi déjà ça, le bétel ?
Je crois que c'est une sorte de feuille qu'on mâche qui te fait oublier la fatigue et la faim et c'est pas mal addictif, un peu comme la drogue. Et le côté addictif vient de la noix d'arec, le fruit du palmier à bétel, qu'on retrouve dans plusieurs produits dans le monde.
Ouais, c'est super addictif. Selon un article d'Anne Julietter, cette feuille qu'on chique serait l'une des substances les plus addictives consommées au monde.
Ah bah ok, bah j'en avais jamais entendu parler. Hein.
Alors ça c'est parce que les métropoles coloniales n'étaient pas trop fans du goût et c'était difficile de trouver des feuilles fraîches sans les importer.
Ah, comme les Allemands qui avaient du mal à trouver du caoutchouc naturel avant la Seconde Guerre mondiale.
Ah mais oui, mais tout est lié en fait. La matière naturelle ou artificielle avec le pneu et le chewing-gum, le plaisir des effets sur l'individu avec le chewing-gum et le bétel, et la difficulté d'approvisionnement avec les pneus et le bétel.
Exactement, ces trois objets quotidiens et leurs histoires sont des parfaits exemples que la guerre ont eu des rôles, que les guerres ont eu des rôles extrêmement importants dans l'histoire de la mondialisation.
Et oui, nous allons donc clore cette chronique sur ces paroles et je vous laisse avec la chanson Pop and Gum de Superbus. Vous allez la reconnaître sûrement grâce à la pub de Malabar.
Pour la dernière chronique.
Wouh, c'est passé vite.
Wesh la team, ça dit quoi?
Mais MDR m'appelle, t'es venu en mode Kaira ou bien?
Comment ça?
Bah en mode racaille, lacostène quoi.
Fais gaffe, c'est pas trop ça une racaille, y a une connotation négative de ouf. C'est pas juste tu t'habilles ou tu parles en mode kéké hein.
Ouais, c'est vrai qu'on utilise grave à la légère, mais t'as raison, une racaille ça peut aussi être des délinquants, des trafiquants, des jeunes dangereux ou même des terroristes.
C'est vrai que souvent les racailles, genre dans les infos, aux yeux du gouvernement et tout, sont toujours liées à la délinquance et le trafic de drogue.
Ouais, mais comme dans le 9-3 en fait, qu'on voit toujours dans les médias.
C'est vraiment une des pires banlieues celle-là. Mais elles ont toujours été comme ça?
Pas forcément. Aujourd'hui, on associe la banlieue uniquement aux racailles. Mais historiquement, ça vient de lieu, qui à l'époque était une unité de mesure, et ban, l'endroit où la ville étendait sa juridiction.
Mais est-ce que c'est... Enfin, c'est que à l'extérieur des villes? Parce qu'aux USA, les beaux quartiers sont justement à l'extérieur, alors que les mauvais quartiers sont au centre-ville.
Mais donc la banlieue, c'est juste les quartiers à l'extérieur de la ville, en fait.
Ouais, et moi, je pensais que c'était un truc assez moderne. Mais en fait, ce préjugé des soi-disant mauvais quartiers existe depuis très longtemps. Genre, tu te rappelles de la disserte de français? Victor Hugo en parlait déjà. Du coup, l'origine date pas d'hier, quoi.
Mais ça date de quand, alors?
Attends, attends. Vous vous rappelez du livre qu'on a lu en géo?
Ah, Histoire des préjugés.
Ouais, ouais, voilà. Attendez, je crois que je l'ai même avec moi. Ouais, regarde là.
Ah bah t'as raison, c'est vieux. Ce préjugé sur les banlieues date d'avant le 18e siècle. Parce que si j'ai bien compris, au Moyen-Âge, les villes ont voulu agrandir leur pouvoir et puisqu'ils avaient plus de place à l'intérieur, ils ont dû construire des faubourgs qui ne faisaient pas directement partie de la ville.
Ah, mais c'est de là que vient le mot. C'est des faubourgs, la fausse ville.
Exact. Et les gens, au 18e siècle, ils se sont installés pour commencer à agrandir la ville et en construisant des usines puisqu'ils devaient vivre proche de l'usine pour y travailler.
Ah bah alors c'est de là que vient cette mauvaise image, non? Parce que bah c'est vrai que les classes sociales plus basses sont très méprisées déjà au Moyen-Âge, les travailleurs sont super mal vus depuis toujours. Leur classe représentait la saleté, la maladie, l'alcoolisme, la violence, etc. Raison de plus pour les garder à l'extérieur de la ville, je pense.
En plus, une chose a entraîné une autre, et le fait que ces quartiers soient les plus défavorisés a aussi développé et amené des pratiques moins bien considérées, comme les abattoirs ou les cimetières, ce qui n'a fait que d'empirer la représentation de ces endroits.
Ouais, mais c'est pas tout. Ça s'est encore empiré avec l'arrivée des migrants qui sont venus par manque de main-d'œuvre.
Ah ouais, bah c'est intéressant comme c'est passé d'un préjugé social à un préjugé racial que, bon, on peut tous l'avouer, il est toujours très présent aujourd'hui.
Ouais, c'est ça. Mais du coup, les banlieusards, ils étaient vus comme des racailles aujourd'hui ?
Ouais, je crois que c'est depuis le début, parce que regarde, tu vois ici, en parlant de ces mots, pour parler de la racaille, ça dit « Le terme désignait déjà au Moyen-Âge la canaille, la lie du peuple. »
Ah ouais, ça a tout de suite été lié aux banlieusards.
Mais maintenant, c'est quoi pour vous les banlieusards ?
Bah, c'est vrai que souvent on utilise en mode pour parler de ceux qui dégradent les lieux publics ou qui font les gars en faisant du rodéo sur leur scooter et qu'on voit toujours dans les médias.
Donc c'est vrai que souvent on pense que tous les banlieusards sont des racailles.
Oui, mais du coup il faut pas qu'on oublie que théoriquement c'est que les gens qui habitent en dehors de la ville. Cette image négative n'est jamais partie, mais c'est que un stéréotype, non ?
Tellement ce préjugé est présent dans notre société que finalement les banlieusards se sont imprégnés de cette image. C'est devenu leur identité.
Ouais, bah je pense que c'est pour ça, non ? Les facteurs qui ont fait que bah, le préjugé a perduré dans le temps.
Après, faites gaffe, faut se rappeler que c'est quand même un préjugé. Il faut pas que ça nous change, ni nous, ni notre manière de penser.
D'ailleurs, on peut voir dans certaines villes, comme Lausanne, il y a une distinction de ouf entre les banlieues Est et Ouest. On peut donc pas généraliser sans raison et les stigmatiser tout de suite.
Et oui, t'as raison. Bah, du coup, on est d'accord, il faut toujours penser avant de parler.
Ça, c'est sûr. Bon, alors, comme d'habitude, on finit avec une petite chanson bien dans le thème. Merci de nous avoir écoutés. Et voilà, bande organisée.
Yo, cesse ton baratin, t'es qu'un fils de baratin. J'commence le rap avec cet étroit, à la rivière j'ai touché la quinte. Yo, j'vise l'or, le platine, à la base c'était les assises. J'suis un peu de Zampa, un peu de Zizou, j'offre un Ricard à Poutine. Les trafiquants dans le bâtiment cavale comme Usain Bolt. Je connais le maniement de mon département. Le soir pour te froid c'est ta gold et ça fait Zumba. Café au carnaval, j'suis dans le 4-4 teinté, pisté par la banale. Et ça fait Zumba, café au carnaval, j'suis dans le 4-4 teinté, pisté par la banale.
En bande organisée, personne peut nous canaliser. Dans la zone, ça fume la fusée, pisté par les banalisés.
Hasta luego, fais un, hasta luego, fais un deux. Hasta luego, hasta luego.
Égal, illégal, alpha, omega. On fait coup d'état, pas dans la tête, c'est la cuenta. Poursuite, y'a les bleus, serais-je sort d'un bleu. Terre, terre, guidon, logistique. Par terre, tu sens balistique. A tchou tchou tcha.